Notre lecture biblique se trouve aujourd'hui dans le psaume 147, versets 2 et 3. C'est l'Éternel qui bâtit Jérusalem, qui rassemble les dispersés d'Israël, qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui bande leurs plaies. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est nous attarder encore une fois sur un sujet qui est mal compris aujourd'hui et pourtant qui est vital pour notre vie spirituelle. Un chrétien est un vrai chrétien. C'est quelqu'un qui est vivant spirituellement, qui a une vie qui n'est pas comme la vie des personnes qui l'entourent. C'est une vie qu'il tire directement de son Sauveur. Ce cantique que l'on chante « En toi, Seigneur, j'ai mis ma confiance. Ton puissant secours m'assiste tous les jours. Seul tu fais mon espérance. » Et c'est vraiment le pilier fondateur de notre méditation aujourd'hui. Rappelez-vous ce qu'on a lu dans notre lecture biblique. C'est l'Éternel qui bâtit Jérusalem, qui rassemble les dispersés d'Israël, qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui bande leurs plaies. C'est quelque chose de très intéressant si vous y réfléchissez bien attentivement. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, Dieu voulant. Et on demande que le Seigneur nous donne son esprit pour que l'on puisse discerner. Mais avant même de nous d'approfondir ce sujet très important, on a besoin d'autre chose. Parce que aujourd'hui, on veut comprendre la composition du peuple de Dieu en ces derniers jours, en cette période qui est juste avant le retour de Jésus-Christ, en cette période où l'iniquité est multipliée dans le monde, au travers du monde, tout autour de nous, nous voulons comprendre qui sont ceux qui composent le peuple de Dieu en ces derniers temps, en ces derniers jours. Vous voyez au premier abord que c'est un sujet vraiment très très important. Et c'est pour ça que ce passage du psaume 147 est si important aujourd'hui. Pour pas que simplement on le lise de manière superficielle et qu'on croit en avoir tiré la leçon sans réellement avoir bel et bien réfléchi à ce que Dieu est en train d'essayer de nous communiquer. Mais avant même d'essayer d'aller plus profondément dans ce que le Seigneur nous a révélé ici, nous voulons voir que pour pouvoir discerner et apprécier les vérités de la parole de Dieu concernant l'Église de Dieu, nous avons besoin d'être avant tout délivrés de nos fardeaux. Nos fardeaux, ils sont multiples, mais on a besoin d'en être délivrés parce que autrement, ils nous empêchent de bien comprendre ce que le Seigneur essaie de nous dire dans sa parole. Parce que nos fardeaux, ils sont multiples, ils sont les erreurs doctrinales qui nous entourent et nous rendent l'esprit brouillé, qui nous embrouille, mais aussi, et beaucoup plus important, nos propres péchés qui nous condamnent et dans cet esprit de condamnation nous empêchent d'avoir un esprit de discernement, une capacité de discerner la pensée de Dieu dans la parole de Dieu. Donc, tout de suite, ce qu'on veut faire, c'est lire dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, et voir que Dieu nous donne quelque chose. Dieu nous donne quelque chose et On veut comprendre ce que cela veut dire qui nous donne cette chose-là. Dans 2 Timothée, chapitre 1, au verset 7, dans la version Darby, nous lisons « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. » Et sur ce verset, le commentateur Adam Clark nous dit que le mot ici « crainte », cet esprit de crainte, fait directement allusion à l'esprit de servitude, d'esclavage. Et donc Dieu ne nous a pas donné un esprit de servitude, d'esclavage, qui nous rendrait dans la crainte constante de lui, mais il nous a donné, qu'est-ce qu'il nous a donné ? Il nous a donné un esprit de puissance et d'amour et de conseil, ou comme la Bible Seconde nous dit, comme un esprit de sagesse. Et on veut savoir de quoi Dieu nous parle ici. Parce que c'est vraiment facile de lire superficiellement, mais on veut lire la pensée de Dieu dans la parole de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu? De quoi Dieu parle-t-il? S'il ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance et d'amour et de conseil, alors quel est cet esprit de conseil? Ou, comme la note de marge nous le dit, quel est cet esprit de sobre bon sens? On veut savoir. Il ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de sobre bon sens. Et on a un indice dans le premier élément de ce qu'il nous a donné, mais il nous a donné un esprit de puissance et d'amour. Et dans le chapitre 1 de Romains, on nous dit que l'évangile est la puissance de Dieu. Et l'évangile, c'est la manifestation de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Et donc, de quoi s'agit-il quand on nous dit que Dieu nous donne un esprit de conseil ou de sagesse ou de sobre bon sens? Qu'est-ce que c'est le bon sens? Le bon sens, c'est de pouvoir voir distinctement le vrai du faux, n'est-ce pas? Et le mot sobre, à quoi cela fait allusion? D'être sobre, c'est l'inverse d'être ivre. Donc, si Dieu nous donne un esprit de sobriété, quelle est cette sobriété qui n'est pas une ivresse? Quel est ce bon sens? Allons pour cela dans Proverbes, chapitre 24, verset 16. Proverbes, chapitre 24, au verset 16. Car le juste tombera 7 fois et il sera relevé, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Et là, je veux vous appeler à cogiter. Cogiter, non pas seulement selon notre propre sagesse, mais selon la sagesse que Dieu nous donne. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici? Le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Mais les méchants, par contre, se précipitent dans le malheur. Donc, le juste, qui n'est pas juste par sa propre justice, mais qui est juste par la justice de Christ, il tombe 7 fois. Il tombe. Il fait des erreurs, il commet des erreurs, il pêche, mais la différence entre le juste et le méchant, c'est que le méchant, après qu'il soit tombé, il ne s'arrête pas là, il se précipite dans le malheur. C'est-à-dire qu'au lieu de se relever, de regarder à Dieu, de se repentir, de regretter profondément et de confesser sa faute et d'écouter attentivement ce que Dieu lui dit vis-à-vis de ce qu'il a fait qui n'était pas bien, le méchant, il dit « bon bah tant pis, tant pis ». Allez, vas-y, je continue maintenant. Je continue et je vais faire pire encore. Ça, c'est le méchant. Mais on nous dit que quand bien même le juste tombe 7 fois, il se relève. Il sera relevé. C'est encore mieux. il sera relevé. Et donc, on veut toujours essayer de voir le lien entre ce que nous avons lu dans 2 Timothée 1, 7, à savoir que Dieu ne nous donne pas un esprit de crainte, mais un esprit de puissance et d'amour et de conseil ou de sagesse ou de sobre bon sens. Et quel est le bon sens dont Dieu nous parle ici? Réfléchissez-y. Si le juste se lève cette fois, qu'est-ce qui lui a permis de se relever? Allons-y maintenant tout de suite dans la première épître de Jean, chapitre 1. Première épître de Jean, chapitre 1, au verset 9. Et vous connaissez très bien ce passage, mais c'est important que on laisse la Bible faire les liens, relier chacun de ces passages entre eux pour que l'on voit le grand tableau, pas juste un passage à part. Et là, nous lisons, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité. Et donc, le juste, il sait cela. Parce que le juste, c'est pas juste une personne ignorante. Le juste est une personne qui est illuminée par la parole de Dieu et qui vit à la lumière de la parole de Dieu. Parce que nous lisons que ta lumière est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc c'est la parole de Dieu qui est censée être la lumière de mon sentier. Et donc, alors que je trébuche sur mon sentier, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu me dit? Il me dit que si je confesse mes péchés, lui, Jésus-Christ, est fidèle et juste pour me pardonner mes péchés. Et pas seulement ça, mais pour me purifier de toute iniquité. Ça veut dire que la mentalité, ce n'est pas « je te pardonne et maintenant tu n'as qu'à continuer ce que tu faisais ». Peu importe, je te pardonne, tu vas faire tout ce que tu veux faire et je te pardonnerai encore et encore jusqu'à ce que tu sois complètement le plus misérable des créatures sur cette terre et je te pardonne encore. Est-ce que c'est ça le message? Non. Jésus-Christ nous a été donné pour sauver son peuple de ses péchés et non pas dans ses péchés. Et donc là, le juste, il entend cette bonne nouvelle et il se relève. Et quand bien même il tombe une autre fois, il se relève encore. Parce que Dieu ne lui a pas simplement promis de lui pardonner ses péchés, ses fautes, mais de le purifier de toute iniquité. Et donc il se relève pour marcher vers cette lumière, vers cette espérance et vers cet appel, cette vocation céleste. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que, en faisant le lien entre ces trois textes, on voit que la confiance, notre confiance en l'amour justifiant de Dieu, elle nous donne un esprit de sobre bon sens qui nous permet de progresser. Et c'est ça, maintenant, qui nous permet d'aller de l'avant et de ne pas nous morfondre, de ne pas nous décourager. Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus lui-même n'a pas failli et ne s'est pas découragé. Et il savait justement ce caractère de Dieu que nous regardons ici. Que quand bien même j'ai failli, j'ai échoué dans mes efforts pour obéir à Dieu, je me relève. Et mieux encore, Dieu me relève par sa parole et par mon effort, par ma concentration sur ce qui sort de sa bouche. Et maintenant, je vous lis simplement un court extrait de l'Esprit de prophétie dans Mind, Character and Personality, volume 2, à la page 534, paragraphe 5 de l'original. Nous lisons « Ne pensez pas que parce que vous avez commis des fautes, il vous faut être toujours sous la condamnation. Car cela n'est pas nécessaire. C'est très intéressant ce passage. C'est tellement intéressant que je l'avais écrit à l'intérieur de ma Bible. Mais ce passage, il doit être pris à la lumière du fait que Dieu nous a appelés à être parfaits comme notre Père aux cieux est parfait. Ce passage de l'esprit de prophétie, cet encouragement nous est donné quand nous avons réalisé combien nous arrivons court de la gloire de Dieu. Comme c'est écrit dans Romains, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand nous réalisons cela et que nous réalisons notre terrible incapacité à arriver à atteindre, à satisfaire cette vocation céleste, alors ce passage vient à nous et il est comme une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Je relis, ne pensez pas que parce que vous avez commis des fautes, il vous faut être toujours sous la condamnation. C'est la mentalité de la personne consciencieuse. C'est que maintenant j'ai fait ce qui est mal et je savais que c'était mal. Et donc maintenant, il n'y a plus trop d'espoir pour moi. Et donc on se dit, on ne va pas à Dieu. Mais nous avons besoin de faire preuve d'audace maintenant que nous nous sentons sans espoir parce que c'est dans cette situation que nous trouvons Jésus. Donc vous voyez que ça ne perd pas de son sens. Toutes les exigences de la parole de Dieu gagnent de leur sens quand Dieu nous dit qu'il n'exige pas de nous que nous soyons en permanence sous la condamnation. Mais il veut nous libérer de cette condamnation, comme c'est écrit dans Romains chapitre 8, je crois. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Et vous allez me dire, mais c'est bon, j'ai marché selon la chair maintenant, donc je suis sous la condamnation elle est pour moi. Mais non, parce que si maintenant que j'ai marché selon la chair, je me repens, je confesse à Dieu et que je lui dis, maintenant Seigneur, aide-moi à marcher selon l'Esprit, eh bien je suis en train de marcher selon l'Esprit parce que c'est l'Esprit qui a inspiré la parole de Dieu. Et si j'obéis à la parole de Dieu qui me dit de confesser mes fautes, et de me repentir, alors est-ce que je marche selon la chair ou est-ce que je marche selon l'esprit? Donc, et c'est là que nous sommes encouragés par la parole de Dieu qui nous dit qu'il n'exige pas de nous que nous soyons constamment sous la condamnation parce que nous avons péché. Il nous dit, car cela n'est pas nécessaire. C'est pas ce qu'il attend de nous. Mais il veut bien et il convient pour nous de ressentir notre condamnation si nous n'avons pas été brisés sur le roc. Alors, l'Esprit amènera proche de notre cœur la sensation de la loi qui a été violée. Mais si, après que j'ai confessé mon péché et que je me sois repenti à Dieu, je ressens encore la condamnation, alors ce n'est plus l'Esprit qui est à l'œuvre, mais c'est un autre. C'est comme on voit dans Zacharie chapitre 3, c'est Satan qui se tient à la droite du pécheur pour le condamner devant l'Éternel. Donc là, c'est une autre activité et ce n'est plus l'activité du Saint-Esprit. Et notez bien cela, frères et sœurs, parce que le Saint-Esprit a une activité. Et si nous marchons ça et là à dire ou à écouter et croire les doctrines nouvelles qui nous disent que l'Esprit n'est pas une personnalité, n'est pas une personne réelle, alors nous nous plaçons dans une situation où nous risquons terriblement de ne plus être susceptibles aux appels et aux injonctions de la parole de Dieu, parce que c'est l'Esprit qui nous communique la force de la signification de chacune de ces paroles. Nous avons besoin de la troisième personne de la divinité. Donc voilà, n'est-ce pas merveilleux la lumière que Dieu nous donne dans sa parole? Il n'exige pas de nous que nous soyons en permanence sous la condamnation. Et maintenant qu'on a vu cela, et qu'on a vu que Dieu nous donne bel et bien un esprit de sobre bon sens pour que notre discernement soit purifié de ce nuage de condamnation, que Dieu nous donne bel et bien, non pas cet esprit de crainte qui a toujours peur de la condamnation de Dieu, mais cet esprit de conseil, cet esprit de sobre bon sens, cet esprit d'amour et de puissance. Là, Dieu ôte le nuage qui obscurcissait notre vision et il nous permet de comprendre la suite de notre message aujourd'hui. Et on y revient tout de suite dans le psaume 147, qui était notre lecture biblique. Et nous allons prendre le temps de réfléchir maintenant, de réfléchir attentivement. Nous lisions dans le psaume 147, au verset 2 à 3. C'est l'Éternel qui bâtit Jérusalem, qui rassemble les dispersés d'Israël, qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui bande leurs plaies. Il y a plusieurs aspects ici que nous voulons considérer attentivement. Réfléchissez-y avec moi, je vous en prie. L'Éternel bâtit Jérusalem. Et qu'est-ce qui est écrit d'autre ? Il rassemble les dispersés d'Israël. Dans le Nouveau Testament, nous savons que Israël est non plus l'ancien Israël, mais l'Israël moderne. Ceux qui sont des Juifs selon le cœur nouveau. Et nous voyons ici que l'Éternel, il bâtit Jérusalem avec les dispersés d'Israël. Et dans la Bible Chouraki, qui est très littérale de l'hébreu, nous lisons que l'Éternel rassemble les bannis d'Israël. Il rassemble les bannis d'Israël. Et c'est très important aujourd'hui parce que il y a un danger pour les croyants adventistes du septième jour, c'est de toujours regarder à une dénomination, à une organisation et à se consoler à l'idée qu'ils font partie de l'église primitive adventiste parce que cette église est toujours la même organisation. Et c'est très intéressant parce que si vous allez tout de suite dans le livre Événements des derniers jours, à la page 35 et au paragraphe 4, vous allez voir quelque chose qui nous met sur la voie ici. Et là, l'esprit de prophétie identifie qui est aujourd'hui l'Israël. Je lis dans Événements des derniers jours, page 35 au paragraphe 4. Pendant 40 ans, l'incrédulité, les murmures et la rébellion ont éloigné l'ancien Israël de la terre de Canaan. Les mêmes péchés ont retardé l'entrée de l'Israël moderne dans la Canaan céleste. Et ceci a été écrit en 1883. Donc l'esprit de prophétie et les pionniers de l'Église adventiste s'efforçaient de mener comme c'était le cas pour l'ancien Israël, de mener l'Israël moderne à la Canaan céleste, qui n'est autre que le ciel. Mais elle nous dit que les mêmes péchés qui ont retardé l'entrée de l'ancien Israël ont maintenant retardé l'entrée de l'Israël moderne dans la Canaan céleste. L'Israël moderne n'était ici autre que l'Église adventiste du septième jour. Et donc, considérez avec moi ce que le Seigneur est en train de nous communiquer ici dans ses paroles. L'Éternel bâtit Jérusalem, il rassemble les dispersés ou les bannis ou les exilés d'Israël. Pour être exilé, il faut avoir été envoyé en exil. Pour être banni, il faut avoir été banni. Et la parole de Dieu, selon la version littérale de Chouraki, qui était juif, nous dit que le texte nous parle des bannis d'Israël. Ça veut dire qu'ils ont été bannis par Israël. Et si vous continuez avec moi ici, vous allez voir que ce n'est pas ici une opinion humaine. Que c'est bel et bien le message qui nous est communiqué dans la parole de Dieu. Mais là, vous vous demanderez, mais oui, mais là, Jérusalem, peut-être que c'est Israël aujourd'hui, en Palestine. Ou même, mais Jérusalem, c'est l'Église adventiste du septième jour. Vous voyez, nous avons des idées qui ne sont pas fondées dans la parole de Dieu. Et donc, nous voulons analyser. Nous voulons analyser, non pas pour condamner, mais pour que Dieu puisse véritablement nous consoler. Parce que le problème, et j'ai vu cela dans mon expérience à de nombreuses reprises, c'est que le croyant, quand bien même il est consciencieux, a la fâcheuse tendance, en manquant de comprendre et de discerner la signification de la parole de Dieu, il a la fâcheuse tendance d'empêcher la consolation de Dieu. C'est bizarre, n'est-ce pas? Nous empêchons la consolation de Dieu, c'est exactement ce que nous faisons. Et c'est pour ça que nous voulons constamment être attentifs, non pas à nos idées, non pas à nos opinions, mais à la pensée de Dieu dans la parole de Dieu. Non pas ma pensée, non pas ce que je crois, non pas ce que j'ai envie que cela veuille dire, mais ce que Dieu veut dire. Et donc nous demandons quelle est cette Jérusalem qu'il bâtit avec les bannis d'Israël. Et pour cela, nous allons dans Hébreux chapitre 12. Dans Hébreux chapitre 12, vous allez voir que la parole de Dieu s'explique toute seule. Et c'est ça qui est magnifique. Si vraiment vous voulez comprendre le sens de la parole de Dieu, ne courez pas vers les commentateurs. Ne courez pas vers un pasteur ou un ancien qui a de l'ancienneté selon la chair, mais qui n'est pas dirigé par l'esprit. Mais courons vers la parole de Dieu et sondons. Et c'est important de préciser, avant que je m'avance davantage, que dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16, la parole de Dieu nous dit véritablement qu'il a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs et des pasteurs. Mais ce qui est important de discerner, c'est la personne qui est en face de moi, est-elle véritablement une personne qui l'a envoyée et qui l'a donnée? C'est ça que nous voulons distinguer. Dans les jours de Jérémie, quand il prophétisait, il y avait Ananias qui était venu vers les chefs d'Israël et qui prophétisait que il n'y aurait pas le joug de Babylone. Et il disait, non, vous ne serez pas assujettis à Babylone. Donc, croyez, espérez, Babylone, il ne va pas se rendre maître de vous. Et qu'est-ce qu'il disait, Jérémie? Il disait, l'Éternel ne t'a pas envoyé. À combien de pasteurs, d'évangélistes, cette parole devrait-elle être adressée aujourd'hui, frères et sœurs? Considérons. Et donc, pour revenir, là, nous demandons où est-ce que ces bannis d'Israël sont rassemblés et quelle est cette Jérusalem que l'Éternel bâtit? Hébreux, chapitre 12, versets 22 à 23. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Il parle ici aux chrétiens. Il fait le contraste, il fait la comparaison entre les Hébreux qui étaient au pied de la montagne de Sion physique et qui tremblaient à la parole qui était provenue du haut de la montagne. Et il dit, mais vous, ce n'est pas ça que vous avez fait comme expérience. C'est différent. Vous n'avez pas, Dieu ne vous a pas donné un esprit de crainte. Mais qu'est-ce qu'il leur a donné? Qu'est-ce qu'il nous a donné en tant que chrétiens? Un esprit de puissance, d'amour et de conseil. Qu'est-ce qu'il dit? Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. De laquelle? De la cité du Dieu vivant. D'accord? De la Jérusalem céleste. Ah! Des milliers d'anges, de l'assemblée et de l'église des premiers-nés, inscrits dans les cieux du juge qui est Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Très intéressant, n'est-ce pas? Je trouve la parole de Dieu fascinante. Fascinante. Quelle est la Jérusalem que l'Éternel bâtit? Qu'est-ce qu'il a dit Jésus dans Jean chapitre 14? Je vais vous quoi? Vous préparer des demeures. Ah, tout s'explique. Et vous voyez que la parole de Dieu ne nous justifie pas à rester dans le flou. Les choses pour lesquelles nous avons besoin de réponses claires et nettes nous sont éclairées. Et qu'est-ce qui est écrit? Où est-ce qu'il rassemble les bannis d'Israël? Les bannis d'Israël? Quel Israël? L'Israël moderne. Ah! Où est-ce qu'il les rassemble? Vous êtes approchés de la Jérusalem céleste, de l'assemblée et de l'église des premiers-nés. Et où est-ce que leurs noms sont écrits pour être rassemblés comme cela dans la Jérusalem céleste, la cité de Dieu, du Dieu vivant? Où est-ce qu'ils sont écrits leurs noms? Est-ce qu'ils sont écrits dans les registres d'une grande organisation? Est-ce que c'est comme ça qu'ils sont sauvés? Leurs noms sont inscrits dans les cieux. Inscrits dans les cieux. La parenthèse que je donne ici, c'est que Dieu a établi le principe d'organisation. James White, dans un article très renommé, avait élaboré sur le principe nécessaire et indispensable de s'organiser en tant qu'Église. Mais la parole de Dieu nous dit que l'Église doit être la colonne de la vérité. Non, mieux encore, la parole de Dieu nous dit que l'Église est la colonne de la vérité. Donc, si nous regardons une organisation comme étant l'Église, mais que cette organisation ne prêche plus, ne représente plus et n'encourage plus la vérité, n'y a-t-il pas un problème là? C'est simple, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas la colonne de la vérité. Il faut examiner et vérifier et comparer les réalités que nos yeux voient et les vérités que la parole de Dieu exprime. À chaque tournant. Et pas simplement se blottir dans cette sensation d'appartenir à une communauté et donc étouffer ses convictions fortes qui nous disent qu'il y a véritablement un gros problème là. Quelque chose d'inconséquent. Et donc, voilà. Nous sommes venus à l'assemblée et l'église des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux, à la Jérusalem céleste. L'Éternel, Il bâtit la Jérusalem. Il rassemble les dispersés, les exilés, les bannis d'Israël. Et maintenant, nous continuons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 66. Parce que ce n'est pas tout ce que Dieu dit sur ce sujet, il y a davantage encore. Et considérez avec moi l'impact de ces paroles et combien elles ont trait à notre expérience aujourd'hui. Considérons, frères et sœurs. Ésaïe, chapitre 66, versets 2 à 5. Il dit, « Car ma main a fait toutes ces choses, et c'est par moi que toutes ces choses ont eu leur être, dit l'Éternel. Mais à qui regarderai-je ? » À qui ? C'est la question qu'on veut se poser. À qui est-ce que Dieu regarde ? Est-ce qu'il regarde à un membre dont le nom est inscrit dans le registre de l'Église sur la terre, simplement parce qu'il est membre, simplement parce qu'il vient le sabbat, simplement parce qu'il vient le mardi ou le mercredi, simplement parce qu'il croit certaines choses? Qu'est-ce qui est écrit? Il dit, à qui regarderai-je? À celui qui est affligé et qui a l'esprit brisé, et qui tremble à ma parole. Celui qui tremble à ma parole, qui? Les bannis d'Israël. Ils tremblent à la parole. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils sont bannis? On va le voir. Continuons la lecture. Et c'est fascinant, quand vous lisez les versets 3 et 4 et suivants, on a véritablement, si vous laissez votre esprit être influencé par les directions de l'Esprit de Dieu, vous allez voir l'application de ces paroles. Écoutons. Il dit, celui qui égorge un bœuf, c'est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie une brebis, c'est comme qui couperait le cou à un chien. Celui qui offre un gâteau, c'est comme qui offrirait le sang d'un pourceau. Celui qui fait un parfum d'encens, c'est comme qui bénirait une idole. Mais ils ont choisi leur voie et leur âme a pris plaisir en leur abomination. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui égorge un bœuf, c'est comme celui qui tuerait un homme. Il y a ici une image qui nous est représentée, qui est une véritable abomination à Dieu. Si vous vous souvenez que vous connaissez ce qui constituait les services du sanctuaire, du temps du sanctuaire hébreu, vous vous rappellerez que l'homme qui avait commis un péché ou qui venait offrir une offrande volontaire ou une offrande de paix, etc., il venait avec un animal. Et il venait pour l'égorger, mais cet acte avait une signification profonde. À chaque fois que cette personne venait égorger l'animal, il était en train de typifier par son action le sacrifice de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. La Pâque, qui était le sacrifice d'un agneau, c'était le type du sacrifice du Fils de Dieu. Et donc à chaque fois qu'un croyant juif venait à l'autel avec son animal, il devait amener un animal qui n'avait pas de tache, qui était pur et parfait, et il venait pour confesser ses propres péchés sur la tête de l'animal, comme nous confessons aujourd'hui nos péchés sur le Fils de Dieu, pour qu'il les porte et non plus nous. Et il venait égorger le Fils de Dieu et donc admettre par son propre acte que son péché avait pris la vie du Fils de Dieu. Donc ce n'est pas un acte simplement cérémoniel. C'était un acte qui était rempli, absolument rempli, gorgé de sens, et qui était censé remplir le croyant d'un esprit d'affliction, un esprit brisé. Le croyant qui venait faire cela était censé être celui qui tremblait à la parole de Dieu, qui venait faire ce que la parole de Dieu ordonnait, pas simplement du point de vue cérémoniel, du point de vue extérieur, mais en venant extérioriser ce qui était le sentiment de son cœur. Il venait confesser qu'il venait d'avoir pris la vie, d'avoir ôté le sang du Messie. La personne qui comprenait la parole de Dieu venait faire cela dans ce but. Mais aujourd'hui, comme jadis, il y a de nombreuses, des milliers de personnes, et notamment ici nous parlons d'adventistes qui connaissent les vérités du sanctuaire, qui arrivent le sabbat ou qui viennent un autre jour se rassembler et qui répètent les cérémonies. Mais qui, dans leur cœur, ils n'ont pas le motif principal qui est censé motiver cette action qui a été ordonnée de Dieu. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous reconnaissez à quel point ces paroles s'appliquent d'une manière vive et claire à ce que nous pouvons voir aujourd'hui de nos yeux? Je me souviens quand je communiais encore auprès de personnes qui professait une foi adventiste, c'est exactement le genre de spectacle qui nous attend. Et donc, nous voulons véritablement discerner, pas nous blottir dans un esprit où nous avons peur de prendre position fermement, mais prendre position pour l'Éternel. C'est ça l'appel. L'esprit de prophétie nous dit qui est du côté de l'Éternel. Qui est du côté de l'Éternel? Élie, il disait au peuple d'Israël, arrêtez de sauter d'un pied à l'autre. Si c'est Baal qui est Dieu, alors suivez Baal. Mais si c'est l'Éternel, alors suivez l'Éternel. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a cet esprit de compromis et que oh, mais ceux qui sont mauvais, ils vont être chassés de l'église de Dieu. Mais c'est un rêve, ça. Nulle part dans la parole de Dieu, il n'y a marqué ça. Et nous avons entendu le message qui nous dit que, ah, mais l'ivraie, elle va être sortie. Excusez-moi. L'esprit de prophétie nous dit que le blé sera sorti. On nous dit ici aussi que les pasteurs fidèles seront ôtés de ceux qui croient avoir tant de lumière, mais qui ne pratiquent pas la vérité. Donc ce n'est pas l'ivraie qui sort. Ce sont les justes que l'Éternel rassemble. N'est-ce pas merveilleux comment la parole s'explique et vient nous donner du réconfort? Nous avons besoin de réconfort, mais ce que l'ennemi veut faire, c'est nous faire avaler des erreurs et donc nous empêcher de recevoir la consolation de Dieu. Nous voulons considérer, frères et sœurs, que l'Éternel veut nous consoler, mais qu'il ne nous empêche pas de nous tenir nous-mêmes en obstacle à la consolation qu'il nous destine. Ce n'est pas un mystère parce que l'homme charnel considère les choses de Dieu comme une folie. Mais nous voulons nous dévêtir du vieil homme et revêtir le nouvel homme qui est créé en Jésus-Christ. Et nous continuons parce que nous n'avons pas fini. Au verset 4, il continue, et je vais mélanger la version Darby et la version Martin, « Moi aussi, je choisirai leur tromperie et je ferai venir sur eux les choses qu'ils craignent. Parce que j'ai crié et qu'il n'y a eu personne qui répondit, que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté, parce qu'ils ont fait ce qui me déplaît et qu'ils ont choisi les choses auxquelles je ne prends point de plaisir. » C'est très intéressant parce que Ici, nous lisons qu'ils viennent égorger des bœufs, ils viennent sacrifier des brebis, ils viennent offrir un gâteau, exactement comme ce qui est ordonné par Dieu dans sa parole. Et pourtant, Dieu dit qu'ils ont fait ce qui me déplaît. Ils ont fait ce qui me déplaît. Parce que l'esprit qui les anime pour faire ces choses que Dieu a demandées, c'est l'esprit qui est en abomination à Dieu. C'est l'esprit pharisaïque, l'esprit des pharisiens. Et donc après, il continue et il dit « Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui tremblez à sa parole, vous qui n'êtes pas comme eux, qui ne font que pratiquer les cérémonies sans avoir l'esprit brisé. Écoutez la parole de l'Éternel, vos frères qui vous haïssent et qui vous rejettent comme une chose abominable à cause de mon nom, ont dit « Que l'Éternel montre sa gloire ». Dans la Bible d'Arbi, on lit « Que l'Éternel soit glorifié ». Donc ils se réjouissent parce que ceux qu'ils considèrent comme des intrus ont été chassés, ôtés du milieu d'entre eux. Mais, dans la Bible qui nous dit, on dit « Mais il sera vu à votre joie et eux seront honteux ». Ça veut dire que ceux qui sont chassés, qui sont rejetés comme une chose abominable, ils se sentent honteux, ils se sentent rejetés. Mais Dieu dit que, quand bien même ils se réjouissent, ces gens-là qui ont chassé ceux qui tremblent à la parole de Dieu, quand bien même ils estiment que c'est une chose dont il faut se réjouir et pour laquelle il faut louer Dieu, Dieu dit, il sera vu à la joie de ceux qui tremblent à la parole et ils ne seront pas honteux. Et lisons dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 20. Parce que c'est les paroles mêmes de Jésus. C'est exactement ce que Jésus a prédit pour ses disciples. Il disait dans Jean chapitre 16, verset 20, « en vérité, je vous dis que vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. Vous ne serez pas honteux, dit le Seigneur. Je vais apparaître à votre joie. Vous vous lamentez et vous pleurez parce que votre condition pécheresse vous accable et l'ennemi est constamment en train de vous accabler de ses tentations et de la condamnation. Et le monde se réjouit autour de vous. N'est-ce pas ce que l'on voit aujourd'hui ? Le monde se réjouit. Les hommes bâtissent, ils plantent des vignobles, comme on lit dans Luc, je crois. Ils se marient, ils donnent en mariage. Tout semble porter à croire que le monde va continuer encore pour quelques siècles. Mais le message, c'est qu'ils seront honteux. Parce que si nous mettons notre espérance dans les choses de ce monde ou dans les ambitions mondaines que ce monde nourrit, que ce monde chérit, alors ces choses feront que nous serons dans une position où nous serons rendus honteux parce que nous avons mis notre confiance dans ces choses. Et c'est ça qui est très intéressant dans ce cantique, 307. Éternel, j'ai mis en toi ma confiance. En toi, Seigneur, j'ai mis ma confiance. En toi, Seigneur, j'ai mis ma confiance. Est-ce qu'on peut le dire honnêtement et sincèrement? En toi, Seigneur, j'ai mis ma confiance. C'est la pensée, c'est c'est le cœur des bannis d'Israël. En toi, Seigneur, j'ai mis ma confiance. Pas en une organisation, pas en une méga dénomination, mais j'ai cru que tu as dit que là deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Est-ce que nous croyons cela, frères et sœurs? Et je sais pertinemment que de nombreuses âmes aujourd'hui ont peur de prendre position parce qu'ils discernent au loin ce que cela voudra dire. Mais prenons courage à la lumière de ce que Dieu nous communique ici dans sa parole. Allons-nous être à jamais esclaves de notre désir de sociabilité? La parole de Dieu nous révèle clairement que si nous sommes en proie à cette mentalité, nous allons être sérieusement en danger à la fin des temps. Parce que les faux Christ sont en pagaille dans le monde, pas simplement dans les églises protestantes. Au sein même des cercles adventistes, les faux docteurs mènent les ouailles dans des sentiers sur lesquels Dieu ne les appelle pas. Et donc lui, l'Éternel, il rassemble les captifs d'Israël, il rassemble les exilés, il rassemble les bannis d'Israël, et il veut bâtir Jérusalem avec ces bannis-là. Mais s'ils ne sont pas prêts à accepter leur sort de la providence, alors le seul choix qui leur est présenté, c'est, qu'est-ce qui est marqué? Moi aussi, je choisirai leur tromperie. Je choisirai leur tromperie. N'est-ce pas terrible comme déclaration? C'était le verset 4 de Ésaïe 66. Je choisirai leur tromperie et je ferai venir sur eux les choses qu'ils craignent. Nous avons de quoi craindre si nous n'obéissons pas à un « ainsi », dit l'Éternel. Mais si, en obéissant à un « ainsi », dit l'Éternel, nous nous retrouvons séparés et exilés, mis en exil et bannis, alors toutes les consolations de la parole de Dieu sont à nous. Elles sont à nous. N'est-ce pas merveilleux? Si vous perdez le monde, Jésus a dit, vous gagnerez votre vie. C'est la croix. C'est ça la croix, frères et sœurs. Aujourd'hui, il y a tellement de sentimentalisme autour de la croix. On dit, oh la croix, Jésus, il a souffert pour moi, il a saigné pour moi. Mais réellement, à l'intérieur, il n'y a pas cet esprit brisé. On est simplement menés ça et là, comme par le vent, par nos émotions. Et nous écoutons des chants pentecôtistes. Pentecôtistes, véritablement, je me souviens quand j'étais encore à l'église adventiste, dans la pause, il y avait les jeunes qui se rassemblaient et qui grattaient leur guitare à la manière du monde. Vous savez ce que ça veut dire, gratter la guitare à la manière du monde? Ça veut dire que nous ne prenons pas chaque corde une par une, mais que nous la grattons. Gring, 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 gring. Ça, c'est le genre de choses qui vous met terriblement en danger parce que votre esprit de discernement va être embrouillé, il va être étouffé, il va être endormi. Et qu'est-ce qui se passe quand Satan a réussi à endormir votre discernement? Vous allez vous retrouver à faire exactement ce que vous auriez cru ne jamais faire de votre vie. C'est pour ça que c'est important de considérer attentivement ce que l'Éternel nous communique et de croire, de mettre notre foi en ces choses et de crier à l'Éternel, « Seigneur, en toi j'ai mis ma confiance d'être sincère. » Que ça soit véritablement notre cri. Il faut souffrir pour que ça soit notre cri. Parce qu'autrement, on va chanter ça, et puis quand c'est fini, et quand le chant est fini, quand le cantique est fini, l'esprit du cantique ne nous anime même pas. Ça, c'est un avertissement pour nous dire que nous ne sommes pas dans cette expérience. Vous savez, moi, je m'examine. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle me permet de m'examiner et d'être vrai avec moi-même. Nous voulons être vrais avec nous-mêmes. Pas nous tromper nous-mêmes, mais examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes véritablement dans la foi. Et tout ce que ça veut dire. Et donc, voilà. Jésus disait, si véritablement vous me suivez, si véritablement vous attendez l'esprit que j'envoie, vous pleurerez et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira autour de vous et vous serez tenté de vous dire « Mais c'est pas normal ce truc !» Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. Si vous persévérez dans ma parole, vous serez véritablement mes disciples. Et votre tristesse sera changée en joie. Nous avions vu dans nos précédentes méditations que dans Jacques chapitre 4, versets 7 à 10, que si nous nous humilions devant le Seigneur, qu'est-ce qui se passera? Il nous élèvera. Et donc, qu'est-ce que c'est qui fera que notre tristesse sera changée en joie? Est-ce que c'est simplement la venue de Jésus? Il y a un sérieux problème si c'est ce que nous attendons pour être joyeux. Ce n'est pas ça. C'est un élément, mais la joie constante. La parole de Dieu nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et je le dis encore, réjouissez-vous. Est-ce que nous nous réjouissons? Ou est-ce que nous attendons que nos circonstances soient changées pour avoir une raison de se réjouir? Ça n'arrivera pas. Si nous sommes véritablement et consciencieusement désireux de suivre Jésus-Christ, de marcher sur ses pas, sur ses traces, alors la joie que nous aurons, nous n'attendrons pas qu'elle nous soit donnée par le changement des circonstances, mais nous la chercherons dans l'agonie des circonstances qui nous sont contraires en toutes choses. C'était la foi de Jésus. Et la parole de Dieu nous dit que ceux qui gardent les commandements de Dieu ont la foi de Jésus. C'est impossible de garder les commandements de Dieu si nous n'avons pas la foi de Jésus, pas la foi en Jésus. La foi en Jésus, véritablement, aujourd'hui, ça veut tout dire et rien dire. Mais la foi de Jésus, c'est précis. Et nous voyons dans la parole de Dieu ce qu'est cette foi. C'est une foi qui priait avec supplication et des pleurs à Dieu d'être délivré. Et il a été délivré à cause de sa crainte, à cause de sa piété. Sa foi au Père a fait qu'il a été délivré. Les circonstances n'ont pas été ôtées. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. N'est-ce pas merveilleux, merveilleusement mystérieux que le Fils de Dieu, qui était pur et saint, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes? Nous sommes appelés à considérer celui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Parce que sa foi est notre exemple et son exemple nous donne du courage pour continuer, pour que nous ne défaillions pas dans nos cœurs et que nous ne devenions pas languissants dans nos cœurs à cause des choses que nous souffrons, des rejets, des abus, du sentiment de bannissement, mais pour que nous prenions confiance en toi, Seigneur, j'ai mis ma confiance. En toi, Seigneur, j'ai mis ma confiance. L'âme le répète, l'âme a besoin de le répéter. L'âme a besoin de chanter. Et si autour de vous, il y a les citoyens de Babylone, pour ainsi dire, rien ne vous oblige à chanter, mais Dieu nous appelle à concentrer nos émotions, nos affections sur lui et à chanter dans nos cœurs. Chanter dans nos cœurs. Quand vous pouvez chanter avec votre bouche, mais il nous faut chanter dans nos cœurs constamment. Et vous savez, moi-même, je suis éprouvé par cet appel. C'est la vocation céleste. C'était qui était Jésus-Christ. Il chantait quand il travaillait. Et il encourageait les personnes autour de lui à regarder à Dieu. Mais autour de lui, c'était des Juifs. Aujourd'hui, l'histoire est différente. Aujourd'hui, nous sommes appelés à ne pas jeter nos perles aux pourceaux. Donc, est-ce que vous allez chanter les chants de gloire en la présence de ceux qui sont des pourceaux dans leur cœur? Ça serait incohérent face à votre profession. Mais nous pouvons malgré tout le représenter et entendre sa voix qui nous chante des chants de délivrance, des chants de consolation et des chants de fortification. Et il sera notre forteresse. Et je ne dis pas ça simplement d'une manière théorique. C'est le genre de choses que je suis constamment en train de faire comme expérience, que on a besoin que notre tristesse soit changée en joie. Et vous savez, quand je réalise que ma tristesse n'est pas changée en joie, je réalise que mes yeux n'ont pas été concentrés sur Jésus. Et c'est là que je prie, je dis, Seigneur, oh, aide-moi, il faut que je remette mes affections sur toi. On a besoin de constamment examiner, parce que c'est ceux qui s'examinent qui seront dignes d'échapper aux choses qui viennent sur ce monde. Et pour bientôt conclure, nous allons dans Jérémie chapitre 30, verset 17. Jérémie chapitre 30, au verset 17, nous avons la pensée qui vraiment, vous allez voir, confirme ce qu'on a vu dans la parole de Dieu jusqu'ici, que vraiment c'est pas une opinion d'un homme, c'est pas une théorie qui a été fabriquée pour satisfaire à des ambitions, mais que c'est vraiment le message que Dieu veut que nous recevions pour que vraiment on tire de la consolation de lui. On a besoin d'être consolé, mais nous avons besoin, pour être consolé, d'être affligé. Parce que si nous cherchons à avoir la consolation de Dieu, vous savez, aujourd'hui, c'est le problème. La grande majorité de la chrétienté aujourd'hui veut avoir la consolation de Dieu sans avoir été affligé par Dieu. C'est intéressant, n'est-ce pas? Et affligés, nous sommes affligés parce que Dieu nous châtie. C'est le langage de la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de l'inventer. Dieu nous châtie, mais pour notre bien. Il nous châtie parce qu'il voit qu'il y a des choses dont nous avons besoin d'être purifiés. Mais en nous purifiant de ces choses, il nous donne la consolation. Il n'est pas un étranger, il est notre Père. Et quand il nous châtie, il continue de nous parler. Je me suis souvent interrogé sur comment est-ce que Dieu peut nous châtier. Il continue de me parler. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est parce que il n'est pas un homme. Et il ne raisonne pas comme un homme. Il est Dieu. Et moi, je suis un homme. Et ses voix sont élevées au-dessus de mes voix, comme aussi les cieux sont élevés au-dessus des cieux. Et le mot ici, cieux, dans Ésaïe, ce n'est pas simplement l'atmosphère. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Et ça, il ne s'agit pas juste de l'atmosphère ou de la galaxie, les cieux, l'immensité de l'espace. À quel point est-ce que vous savez quelle est la limite de cet univers? Voilà à quel point les voix de Dieu sont supérieures à nos voix. Et quand nous ressentons, selon notre mentalité, que Dieu, maintenant qu'il nous châtie, certainement il a envie de ne plus nous entendre, de ne plus nous parler. Ça, c'est les voix de l'homme. Mais les voix de Dieu, c'est que il vient à nous et il nous dit les choses qui sont écrites ici dans Jérémie chapitre 30, verset 17. Et c'est très intéressant. Juste avant ça, j'aimerais bien lire le verset 12. Et vraiment, et moi, je dois vous confesser que pendant de nombreuses années, j'ai vraiment pas du tout compris pourquoi ces choses étaient écrites les unes à côté des autres. Parce que l'homme charnel ne comprend pas les choses spirituelles et nous avons besoin d'être renouvelés dans notre esprit pour vraiment comprendre la pensée de Dieu dans la parole de Dieu. Il dit ici au verset 12 de chapitre 30 de Jérémie, car ainsi a dit l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit? Ta blessure est incurable, ta plaie est sans espoir. Nul ne prend ton parti pour bander ta plaie. Il n'y a pour toi nul remède, nul moyen de guérison. Le monde se réjouit. Et le monde n'est pas là pour vous donner de moyens de guérison. Le monde n'a pas de guérison à vous donner. Et donc vous vous lamentez, vous pleurez. Et il dit, et il ajoute à ça. Le Seigneur ajoute à ça. Ta plaie, ta blessure est incurable. Ta plaie est sans espoir. Et vous vous demandez, mais pourquoi tu me dis ça, Seigneur? Pourquoi tu me dis ça? Parce que Dieu est un Père fidèle, aimant, et il sait que nous avons besoin de réaliser notre condition pécheresse et désespérée pour que nous puissions être guéris. Nous ne prenons parti. Tous ceux qui t'aiment t'ont oublié. Ah, ils t'ont oublié, ils t'ont rejeté. Ils t'ont banni, ils t'ont mis en exil. Tous ceux qui t'aiment t'ont oublié, ils ne s'inquiètent plus de toi, car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Ah, magnifique la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous châtie en juste mesure. C'est Dieu pour nous. Réfléchissons à ce que Dieu est pour nous. Il nous châtie. Il permet à l'affliction de venir sur nous pour notre bien, pour que nous soyons purifiés. Je t'ai frappé comme frappe un ennemi, comme châtie un homme cruel à cause de la multitude de tes iniquités, parce que tes péchés se sont accrus. Pourquoi cries-tu pour ta blessure? Ta douleur est incurable. C'est pour la grandeur de ton iniquité, parce que tes péchés se sont accrus que je t'ai fait ces choses. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés et tous tes oppresseurs, tous s'en iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés et je livrerai au pillage tous ceux qui te pillent. Et vous avez là un contraste vraiment, vraiment étrange. Pourquoi? Il dit, pourquoi est-ce que tu cries? Ta douleur est incurable. C'est pour la grandeur de ton iniquité que je t'ai fait ça. Et après, il dit, mais tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Donc, il n'est pas vraiment entièrement contre nous. D'ailleurs, il n'est pas du tout contre nous. Mais c'est pour notre bien, pour que nous soyons purifiés, qu'il nous révèle ces choses. Et le verset 17, qui est l'apogée de cette déclaration, « Mais je consoliderai tes plaies et je te guérirai, dit l'Éternel. Car ils t'ont appelé la répudiée, ces sillons dont nul ne s'enquiert. » Ces sillons dont nul ne s'enquiert. Les gens, ils disent, « Mais sillons, on la veut pas, celle-là. » Les hommes et femmes veulent faire partie de l'Église de Dieu, mais quand ils voient cette Sion, ils disent « Ah non, 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 c'est pas celle-là que je cherche, moi. » Nul ne s'enquiert de Sion. Ils t'ont appelé la répudier, la rejeter, la bannis. Mais je te consoliderai tes plaies et je te guérirai, dit l'Éternel. Et donc maintenant, pour conclure notre méditation aujourd'hui, nous voulons aller dans Colossiens, chapitre 3, verset 12, à partir du verset 12. Après qu'on ait vu que le peuple de Dieu, en ces derniers jours, est en train de faire une expérience, qui est une expérience de rejet, de bannissement, d'exil, on veut considérer les paroles suivantes. Parce que, si vous vous souvenez, dans le psaume 147, il est écrit qu'il rassemble les exilés d'Israël, les bannis d'Israël. Mais s'il les rassemble, cela ne veut-il pas dire que il les met les uns avec les autres? Mais comment peut-il les rassembler s'ils ne veulent pas être mis avec ceux qui sont bannis, ceux qui sont rejetés, ceux qui sont mis à part, ceux que nul ne recherche? C'est pour ça que nous avons besoin de considérer les paroles suivantes. Colossiens chapitre 3, verset 12. « Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns les autres, si l'un a quelque sujet de plainte contre l'autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » Donc, en ces derniers jours, les enfants de Dieu ont besoin de s'unir les uns aux autres et de ne pas nourrir un esprit d'indépendance, un esprit de suffisance, un esprit de résistance. Le Seigneur est en train de rassembler les exilés d'Israël et nous avons besoin de coopérer avec lui pour être rassemblés les uns avec les autres en sillon que nul ne recherche. Nul ne recherche Sion. Nul ne s'enquiert de Sion. Et l'Israël moderne met en exil ceux qui tremblent à la parole de Dieu, où ils nourrissent un esprit de mépris envers les hommes de bien. En ces temps-là, Dieu nous appelle à nous revêtir d'entrailles de miséricorde. Et pourquoi? Parce que ceux qui sont bannis d'Israël, ils sont enclins au désespoir. Ils sont enclins à se décourager parce que Dieu leur révèle leurs péchés. Rappelez-vous ce qu'on a lu dans Jérémie chapitre 30, du verset 12 au verset 17. Considérez vraiment que cela s'applique à nos jours aujourd'hui. Au jour d'Apocalypse chapitre 12, verset 17. Le reste de sa postérité. La femme, à la période de Laodicée, c'est l'église adventiste du septième jour. C'est elle la femme. La femme, c'est elle l'Église. Mais le diable fait la guerre au reste de sa postérité. Il ne fait même pas la guerre à sa postérité. Il fait la guerre au reste de sa postérité. Cela veut dire qu'il y a une échelle, une progression de bannis, d'exilés, jusqu'à ce qu'il en arrive à un moment où, là où il en était sorti 1000 d'Israël, de la ville, maintenant il en sort 10. Ce sont les choses que la parole de Dieu nous révèle. Et en ces moments où il n'en reste que très peu qui ont à cœur de trembler, qui ont un esprit brisé et contrit et qui tremblent à la parole de Dieu, et que ceux-là qui tremblent sont bannis, entre eux, ceux qui ont cet esprit de trembler à la parole de Dieu, qui sont contrits, ont besoin de se revêtir d'entrailles de miséricorde parce qu'ils sont tous imparfaits. Et ils ont tous des gros défauts. Et donc nous sommes appelés à être, à nous revêtir de bonté et d'humilité, parce que je ne suis pas parfait non plus, et de douceur, parce que nous avons besoin de manifester de la douceur les uns aux autres. Parce que nous sommes enclins à nous décourager au désespoir, et nous avons besoin que chacun vienne manifester la douceur de Jésus à l'autre. C'est pour ça qu'il est écrit que nous sommes appelés en un seul corps. Y a-t-il plusieurs corps de Jésus-Christ ? Il y a un seul corps et il y a plusieurs membres, mais il n'y a pas plusieurs corps. Donc, nous sommes appelés à nous réunir en un seul corps et à nous supporter les uns les autres, à nous pardonner les uns les autres, comme Christ aussi nous a pardonnés. Et à nous revêtir de l'amour qui est le lien de la perfection. Le lien, cela nous rassemble et cela permet que nous soyons tous ensemble amenés à la perfection, à la stature parfaite de Jésus-Christ. Vous voyez que la parole de Dieu ne nous laisse pas sans explication et sans direction. Et donc, à la lumière de toutes ces choses, frères et sœurs, puisse la paix de Christ, à laquelle nous avons été appelés en un seul corps, puisse la paix de Christ régner dans nos cœurs et puissions-nous être reconnaissants et discerner la main de Dieu dans nos expériences et puissions-nous laisser le Seigneur nous relever, à chaque chute, nous relever, nous rappeler qu'il a donné son Fils pour nous justifier et pour nous unir en un seul corps jusqu'à la perfection. Puissent ces choses devenir notre méditation constante et puisse notre méditation se renouveler de jour en jour et que notre joie dans sa parole croisse de jour en jour et que nous soyons reconnaissants pour l'amour que Dieu nous révèle. C'est ma prière. Au nom de Jésus. Amen.